Alors, eh bien, ce matin, on va continuer le livre des Actes. Si vous voulez prendre Actes, chapitre 21, et on va lire les versets 1 à 14. Actes 21, 1 à 14. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, l'apôtre Paul continue son voyage à destination de Jérusalem. Et rien ne pourra l'empêcher d'avancer et d'aller jusque Jérusalem. Et on peut se souvenir et relire peut-être le chapitre précédent. Regardez, chapitre 20, versets 22 à 23. Il est dit, « Et maintenant, » donc c'est Paul qui dit, « Et maintenant, voici... « Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et par rapport à ces versets, on voit qu'il y a 2 choses que Paul savait parfaitement. La première, c'est qu'il se sentait lié par le Saint-Esprit, il se sentait comme poussé, pressé d'aller dans cette direction de Jérusalem. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il savait que, même s'il ne savait pas exactement quoi, mais il savait qu'il y aurait des tribulations, des difficultés, des problèmes et des souffrances là-bas à Jérusalem. Et ce matin, j'aimerais parler de la volonté de Dieu. Donc dans notre récit du chapitre 21, on apprend certaines choses sur la volonté de Dieu pour ce qui concerne Paul. Et par lui, eh bien, ça nous enseigne aussi sur la volonté de Dieu pour nos vies. Et on peut dire que Dieu a des voies parfois qui sont surprenantes pour arriver à ses fins. Et j'aimerais commencer par l'illustrer avec une histoire vraie. Dans les années 70, un juif américain nommé Keith Green, alors peut-être vous connaissez Keith Green, ça vous dit quelque chose, voilà. Il a été élevé à l'origine dans la science chrétienne. Alors la science chrétienne, ça n'a rien de scientifique et rien de chrétien. Mais bon, voilà, un mouvement sectaire. Et finalement, eh bien, dans sa jeunesse, insatisfait de ce qu'il recevait là, eh bien, il a laissé ça de côté. Mais il y avait toujours cette quête spirituelle à l'intérieur. Et puis, il est tombé dans la drogue. C'était les mouvements hippies, l'amour libre... Et donc, voilà, il est parti dans cette voie-là. Et puis, il a fait une mauvaise expérience. Il dit « bad trip », un mauvais voyage dans toutes ses expériences. ce qui l'a poussé à mettre ça un peu de côté et puis à commencer sa quête dans la philosophie, dans la théologie. Il cherchait sans cesse. Et c'est alors qu'à 19 ans, il rencontre une jeune femme nommée Mélodie. Et là, c'est le grand amour. Ils deviennent inséparables. Il était musicien déjà, il commençait déjà à jouer. Et donc, ils étaient dans une quête un peu musicale et spirituelle à deux. Et sa femme lui a offert une Bible. Et il a commencé à lire cette Bible. Et petit à petit, eh bien, il commençait à voir ce que Dieu disait. J'ai lu dans un ouvrage qu'il a même dit à sa femme à un moment, « Mais il faut qu'on se marie. On ne peut pas rester comme ça. Hein. D'après ce que je lis dans la Bible, hein, on ne peut pas coucher ensemble si on n'est pas marié. » Hein, incroyable, hein? Il commençait à s'attacher déjà aux Écritures. Et il est allé à une réunion dans une église. Et puis, le pasteur lui a prêché l'Évangile. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui a son sang, qui a coulé, afin de laver votre cœur de tous vos péchés. Il a compris ça. Et le pasteur, eh bien, a invité à la fin du culte à lever la main ceux qui voulaient accepter Jésus-Christ. Et alors, c'est Mélodie qui raconte, elle, ses bras étaient comme du plomb, impossible de les lever. Et d'un seul coup, elle a senti que son mari levait la main. Et elle s'est dit, mince. Et puis, ils sont rentrés. Quand il est sorti de l'église, il a dit, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Et elle, pendant une semaine, ça a travaillé dans son cœur, elle s'est dit, mais pourquoi j'ai pas levé la main, moi? Et ils sont retournés, c'était les églises Vineyard. Et puis, elle était là, j'espère qu'il va demander encore de lever la main et d'accepter Jésus-Christ. Et il a demandé, et elle a levé la main. Une semaine après, elle a accepté son Seigneur, elle était sauvée, pardonnée de tous ses péchés. Et alors là, eh bien, voilà, Keith dit, il était perdu dans un rêve jusqu'à ce que l'amour de Dieu le trouva. Et ils se sont mis à servir le Seigneur, mais avec zèle, là, comme deux torches enflammées. Lui a composé beaucoup de cantiques. Et alors ils étaient, parce que Mélodie était juive aussi, donc tous les deux voilà, avaient rencontré leur Messie, hein, Jésus-Christ. Elle avait vraiment saisi, enfin plutôt le Messie les avait saisis et ils le suivaient de tout leur cœur. Ils se sont aussi investis dans un ministère auprès des drogués, des personnes démunies. Ils ont fait des centres, essayé de à chaque fois aider le plus possible les personnes qui étaient dans le besoin. Ils avaient beaucoup de projets, beaucoup de zèle pour le Seigneur. Et puis un jour, Keith est parti, a pris un petit avion avec d'autres personnes et ils se sont mis à survoler une propriété qui était destinée à l'œuvre de Dieu, hein, pour voir un petit peu l'étendue de ce qu'il y avait à faire et pouvait être fait. Et puis l'avion a commencé à avoir un problème et il s'est crashé. C'était en juillet 1982. Il y avait à bord le pilote, un couple missionnaire qui était avec lui pour l'aider, leurs 6 enfants, Keith, son fils Joshua, qui avait 3 ans, et sa fille Bethany, qui avait 2 ans. Aucun survivant, tous morts. Mélodie, son épouse, était restée à la maison avec une petite Rebecca d'un an, et une petite fille, une future Rachel, qui était dans son ventre de 6 mois. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que parfois, la vie présente des chemins qui sont douloureux et incompréhensibles. Et on voit que la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, plein de bonheur, où il n'y a aucune ombre. L'apôtre Paul... Pour revenir à Paul, il se sentait lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem, ne sachant pas exactement ce qu'il y arriverait. Il dit qu'il y avait devant lui des liens, des tribulations. Alors bien sûr, la vie de l'apôtre est unique et on peut dire chacune de nos vies est unique. Nos vies sont uniques. On ne passe pas par les mêmes chemins. Mais il y a des vérités à tirer de l'exemple de l'apôtre. La première vérité, c'est que la volonté de Dieu est parfois douloureuse. Alors certes, quand on entre dans la vie en Christ, il y a énormément de choses qui peuvent être soulignées comme étant des bénédictions. Hein. On chante le cantique, compte les bienfaits de Dieu, hein, et on n'arrête pas. Et oui, on peut compter les bienfaits de Dieu et on n'arrêtera pas de le louer pour tous ses bienfaits. Mais parfois, la bénédiction, elle n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. Parce que Dieu peut aussi permettre des choses qui sont douloureuses et qu'il va regarder, lui, comme étant quelque chose de bénéfique pour nous. Nous, on ne le verra peut-être pas au premier abord sous cet angle, mais lui, il sait que finalement, c'est aussi quelque chose de bon pour nous. Melody Green, donc sa femme, est toujours vivante. Si vous faites une recherche, vous allez la trouver sur les réseaux sociaux, hein, où elle continue à servir le Seigneur, plus de 30 ans après avoir perdu son mari et ses deux enfants. Et la Bible nous montre que la douleur et la souffrance font partie de ce monde et Dieu s'en sert aussi. C'est comme des outils entre les mains de Dieu. Il va façonner celui et celle qu'il aime toujours plus pour sa gloire. Avec ma fille Ketsia, elle a reçu un jour un cadeau de un tour de potier pour enfants. Et alors, je me suis mis à faire de la poterie avec elle. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, ce n'est pas facile. Hein. Et alors, nous voilà en train de malaxer, essayer de faire arrondir, et ça a raté, hein. Et pas qu'une fois. Et de reprendre la boule, et de la repétrir, comme ça, pour finir, essayer d'en tirer quelque chose qui ressemble à un vase. Et on peut dire que Dieu fait pareil avec nous. Il est le divin potier. Et parfois, il nous pétrit dans ses doigts par les circonstances. Et le but, ben, c'est de faire de nous des vases qui soient d'honneur, des vases qui soient utiles pour sa gloire. Et Keith, zélé pour le Seigneur, on raconte qu'il a amené beaucoup de personnes à la foi, surtout par ses cantiques, ses chants. Hein, il chantait, il faisait à chaque fois un appel. C'était toujours très porté vers l'évangélisation. Eh bien, voilà, c'est comme si voilà, son temps était fini. Maintenant, ça s'arrêtait. Et maintenant, eh bien, Dieu allait continuer son œuvre dans le cœur de sa femme, Mélodie. Quand on regarde attentivement la vie d'hommes et de femmes de la Bible, dans la Bible, on peut dire que pas une et pas un n'a été épargné par les souffrances. À chaque fois, il y a des souffrances dans la volonté de Dieu. Il y a un lot de douleurs. Si Dieu dit... Ne vous étonnez pas comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez ce verset. C'est donc, il n'y a rien d'extraordinaire à souffrir. Mais c'est quelque chose qui est normal, qui est ordinaire. Comme l'a dit Adolphe Monod, ce qui serait extraordinaire, ce serait que Dieu puisse se faire et se façonner des hommes mûrs, des hommes solides, sans passer par les souffrances. Ça serait extraordinaire. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu nous prépare, il nous façonne. Pour l'apôtre Paul, il faut se souvenir de ce que Jésus avait dit. Il a dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et si on regarde bien, tous les apôtres ont souffert. Hein? Ils ont presque tous terminé leur jour persécutés. Si vous prenez Hébreux 11 et vous regardez Hébreux 11, on peut passer en revue la vie de ceux que la Bible appelle tous ces témoins d'autrefois. Et à chaque fois, on voit la souffrance. Prenez Abraham, dans la tente, là, dans la tente, et les années passent, et il attend toujours son enfant. Prenez Joseph, rejeté, abandonné de tous. Prenez Moïse, en fuite dans le désert, loin de ses frères. Si vous prenez tous les prophètes, Hébreux 11 dit « D'autres furent livrés aux tourments, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Donc, voilà le lot qui était pour les croyants, en fait, des siècles passés. Et ce n'était pas une vie paisible et agréable, sans affliction, sans douleur, sans peine. Que penser de du jeune David, qui va devenir plus tard le roi David. Mais avant cela, combien de souffrances endurées ? Les psaumes sont là pour témoigner de toute la souffrance, de toutes les pleurs, les larmes, la peine de David, hein, qui répand son cœur dans les psaumes. Que dire des vrais chrétiens, attachés à la parole de Dieu au fil des siècles, depuis l'Église originelle, tous persécutés. Je voyais, je vous montrerai un jour un exposé de ça, hein, tous les groupes de chrétiens qui ont été persécutés au fil des siècles. Ça n'a pas arrêté, jusqu'à la réforme. Et puis après, de nouveau contre-réforme. Et on continue, encore des souffrances, encore de la persécution. Alors, nous, on ne peut pas en être exempt et faire figure d'exception, comme si, eh bien, pour nous, eh bien, pas de souffrance, pas de difficulté. Non, ce n'est pas possible. On a la grâce de vivre dans un pays plutôt paisible, avec des lois qui nous protègent, mais la souffrance, elle est toujours là, elle demeure, elle existe. Et ceux qui souffrent ne sont pas toujours ceux qui le laissent le plus paraître. Il y a des souffrances qui sont cachées aux hommes, mais que Dieu seul voit et connaît. Alors, il ne faut pas pécher non plus par orgueil, en ne voulant pas du tout être soutenu et supporté dans la prière, hein, en voulant rien partager du tout. Il y a Épaphrodite, vous vous souvenez, il a été fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Donc Épaphrodite voulait le garder pour soi, ne pas le partager. Mais ça veut dire aussi que parfois, eh bien, la souffrance, elle est chez les personnes, mais on ne le voit pas. Il n'y a rien qui transparaît. Mais il y a une souffrance qui est là, elle existe et on ne sait rien. Et la souffrance, elle existe pour tous. Elle existe dans la solitude, mais elle existe aussi dans le couple. Il y a aussi des souffrances. Elle existe, bien sûr, quand on est malade, mais elle existe aussi pour des gens qui sont en bonne santé, mais elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Elle existe. Elle existe dans la vieillesse, mais elle existe dans la jeunesse. Il y a plein de souffrances. Et si Jésus, notre maître, a souffert, lui qui a été appelé l'homme de douleur, et habitué à la souffrance. Lui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Eh bien, il eût été anormal que nous soyons choyés, préservés, et qu'il ne nous arrive rien jusqu'à la fin. Il eût été anormal qu'on ne souffre pas une douleur, une maladie, une infirmité, une perte, un deuil, une souffrance quelle qu'elle soit. Le monde souffre, la nature souffre, et les enfants de Dieu souffrent aussi. Mais on n'est pas seul. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Hein. On a chanté tout à l'heure, hein. Ta présence est tout mon bonheur. Mais même dans la souffrance, la présence de Jésus-Christ est véritablement notre bonheur. L'apôtre Paul savait que des tribulations l'attendaient, mais il n'était pas en train d'avancer seul. Il était en train d'avancer avec son Seigneur. Et c'est bien cela qui le rend capable de se rendre à Jérusalem. Si Dieu n'était pas avec lui, alors c'est du masochisme. Allez, là où on sait qu'on va se faire battre, on n'y va pas. Mais la différence, c'était que Dieu était avec lui. Il se savait dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que son Seigneur était en train de l'accompagner. Alors, eh bien, il avançait avec son Seigneur. Ensuite, la deuxième vérité, c'est que la volonté de Dieu, elle est parfois incompréhensible. Est-ce que ce n'est pas vrai, ça? Elle est parfois incompréhensible. On aimerait tout comprendre, hein, moi le premier, vous aussi, j'imagine. Et il y a des choses, ça nous dépasse carrément. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, hein, et on ne peut pas tout savoir. Tous les chrétiens des villes où Paul passait trouvaient complètement absurde qu'il aille se jeter dans la gueule du loup à Jérusalem. Parce qu'à chaque fois, l'Esprit était en train de les prévenir et leur dire « Mais tu vas souffrir, il va souffrir, il le savait. » On voit avec le prophète Agabus. Acte 21, verset 4. « Nous trouvâmes les disciples Et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ici, il faut faire une parenthèse, parce que c'est un verset qui pose un petit problème, là, parce que ça semble contradictoire par rapport à ce que nous avons lu au début. Hein. Dans le chapitre 20, eh bien, Paul est lié par l'Esprit et poussé à aller à Jérusalem. Et puis ici, il semble que les chrétiens, eh bien, eux, lui disent « mais ne va pas à Jérusalem ». Est-ce que Paul voulait aller à Jérusalem et l'Esprit ne voulait pas? Ou bien est-ce qu'il était véritablement poussé par le Saint-Esprit? Si on lit l'ensemble du texte, bon là on ne va pas lire, mais des chapitres 20 à 23, eh bien ce qui ressort nettement, c'est que c'était Dieu qui était en train de pousser l'apôtre Paul pour aller à Jérusalem. Et il faut croire ici que le Saint-Esprit avait prévenu aussi les chrétiens de Tyr. Mais eux, dans leur affection pour Paul, eh bien, étaient plutôt en train de lui dire « mais n'y va pas, n'y va pas ». Et pas que l'Esprit ne voulait pas qu'il y aille. L'Esprit ne se contredit pas. De la même manière, un petit peu plus loin, on voit Agabus qui va expliquer clairement ce qui va se passer. Et là, la réaction immédiate des disciples, c'est « mais Paul, n'y va pas ». Donc, voilà, c'est cette compassion, cet amour pour l'apôtre Paul. Paul voulait y aller, se sentant lié par l'Esprit. Mais l'Esprit l'avertissait de ville en ville, et les disciples ne comprenaient pas et voulaient à chaque fois l'en dissuader. Et c'est même les compagnons de Paul, hein, puisque on lit au verset 12, « Quand nous entendîmes cela, nous, c'est-à-dire Luc et ses compagnons de voyage, ceux qui étaient avec lui tout le temps, et ceux de l'endroit, les chrétiens de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Ça voulait dire que tous les disciples étaient d'accord pour dire « mais c'est absurde, n'y va pas, n'y va pas ». Pourquoi ? Parce qu'humainement, c'était incompréhensible, complètement incompréhensible. Paul lui-même n'agissait pas comme cela. S'il y avait une ville où on le persécutait, ben il n'y allait pas volontairement, hein. Il partait. Et il allait dans une autre ville. Il nous a montré cet exemple, hein, de ne pas rechercher les coups, mais de chercher plutôt à fuir, hein, à la persécution. Et là, eh bien, il va aller se jeter dans la gueule du loup, complètement irrationnel. Et on peut dire que la volonté de Dieu, elle est parfois incompréhensible. Comment peut-on comprendre qu'après 7 ans de vie chrétienne, Keith Green soit repris avec ses 2 enfants et qu'il laisse une mère avec un enfant à naître et une petite fille? C'est incompréhensible. Est-ce que Dieu n'était pas souverain pour empêcher cela? Mais oui, Dieu est souverain. Dieu est au-dessus, Dieu règne. Mais sa volonté, c'est-à-dire les chemins qu'il nous trace, sont parfois secrets, impénétrables. C'est même souvent le cas. Pour Melody Green, certainement, un « pourquoi, Seigneur » a dû s'élever de son cœur, c'est évident. Et il y a eu, ou il y a encore parfois, des « pourquoi, Seigneur » qui s'élèvent de nos cœurs à nous. On se dit « mais Seigneur, je ne comprends pas ». Les disciples ne voulaient pas laisser partir Paul. Et puis quand ils l'ont vu partir, ils ont dû se dire « mais pourquoi, Seigneur ? On sait ce qui va se passer, mais pourquoi ?» Paul allait bientôt partir, et son histoire était déjà écrite d'avance, des liens, des tribulations, rien de réjouissant. Alors, les disciples, sans exception, disaient « mais ça n'a pas de sens, c'est totalement absurde, c'est comme un cul-de-sac, quoique les cul-de-sac n'en sont jamais pour le Seigneur, il n'est pas limité ». Et la troisième vérité que l'on peut relever concernant la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu est malgré tout la meilleure voie pour nous. C'est toujours la meilleure voie. Dieu savait ce qu'il était en train de faire avec l'apôtre Paul. Même si c'était des tribulations, même si c'était des difficultés, même si en apparence ça paraissait insensé, inutile, Dieu savait ce qu'il allait faire pour accomplir son plan parfait. La voie du Seigneur, le chemin que Dieu nous trace reste le meilleur pour nous. D'abord, parce que Dieu contrôle. Dieu est souverain. Il reste aux commandes de nos vies. Paul était averti que ce serait difficile, mais difficile, ça ne veut pas dire insurmontable. Et la suite nous montre qu'effectivement, on va le lier de grosses chaînes qui va être emmené devant l'un et puis après devant l'autre. Et on va le balader comme ça, comme un fétu de paille pour aller eh bien, s'expliquer devant les uns et les autres. Et moralement, ça devait être une épreuve qui était difficile. Les Juifs étaient en train de mettre la pression pour le faire exécuter et les Romains le renvoyaient ne sachant pas quoi faire de lui. Mais ce n'était pas complètement insurmontable. Paul ne fut pas torturé, par exemple. Lorsque des hommes vont chercher à lui donner la question, rien que la mention de sa citoyenneté romaine va faire reculer les hommes. Hein. Les citoyens romains étaient protégés dans l'Empire. Hein. On ne pouvait pas les frapper sans un jugement. Et donc, voilà, hop, ils se sont retirés et Paul, là, a été protégé. Dieu savait donc ce qu'il faisait avec lui. Et s'il nous conduit dans une direction, si on se sent lié par l'Esprit, eh bien, c'est que ce n'est pas insurmontable. Il est écrit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Donc, Dieu contrôle ce que nous vivons. Ensuite, une deuxième chose, c'est que la volonté de Dieu, la voix de Dieu est le meilleur parce que Dieu y fait une œuvre qui est invisible. En ce temps, à Jérusalem, ça va être aussi un temps de sanctification pour l'apôtre Paul. On peut dire que Dieu va parachever son œuvre en lui. On le voit, ou on peut le deviner, parce que le gouverneur Félix va le laisser en prison pendant 2 ans. Imaginez-vous ça. Paul, l'apôtre, l'évangéliste, voilà, le pionnier, le planteur d'église, va rester emprisonné pendant 2 ans. Privé de cette liberté d'aller à l'extérieur. On pourrait dire, mais Seigneur, à quoi ça sert ? D'autant qu'il semble, en tout cas, le texte nous dit que simplement l'occasion de témoignage qu'il avait, c'était à Félix, qui le faisait venir souvent, et même pas pour une bonne raison, pour tirer de l'argent de lui. Donc, Paul se retrouvait devant quelqu'un qui n'avait pas envie de recevoir véritablement l'Évangile, et c'était cette occasion de témoigner. Et à vue humaine, nous dirions, que Paul aurait été beaucoup plus utile à continuer ses voyages, à prêcher l'Évangile, implanter des églises, former des disciples, former des anciens. Il aurait été efficace. En tout cas, avec la pensée humaine, on le voit comme ça. Mais Dieu va choisir de l'envoyer par ce chemin-là, chemin de douleur, chemin d'apparente inutilité, parce que c'est certain, Dieu était en train de continuer une œuvre dans son cœur. Comme Joseph qui est resté 2 ans en prison, Paul est resté 2 ans en prison, le temps où Dieu a pu faire une œuvre invisible en lui. Et puis troisièmement, la volonté de Dieu est meilleure parce que Dieu prépare aussi la porte de sortie. Nos solutions et nos projets humains mènent à des impasses, alors que les impasses de Dieu mènent à des solutions. C'est incroyable, hein ? Il est écrit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et l'histoire nous montre que Dieu n'est jamais dans une impasse. Le Seigneur avait d'autres projets pour lui et il voulait notamment l'envoyer à Rome. C'est ce qu'on lit, chapitre 23 et verset 11, un petit peu plus loin, où il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et c'est important parce que cela nous montre que dans sa volonté, eh bien, on ne connaît pas tout son plan. On ne sait pas. Nous, on voit que ce qui est devant nous, mais Dieu voit au-delà. Et ce qui peut paraître une impasse, eh bien, n'en est finalement pas une. Il y a une sortie. Peut-être pas la sortie que nous nous sommes imaginés. Peut-être une autre sortie. Mais il y a une sortie. Paul savait qu'il devait aller à Rome. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Une fois que Félix sera remplacé par Festus, Paul va demander à Festus, il va en appeler à César pour être jugé devant César. Et Festus va lui dire, eh bien, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Et hop, voilà la porte de sortie. Et une fois arrivé à Rome, Paul va retrouver une certaine liberté, puisqu'il va avoir la possibilité d'enseigner dans une maison, vraiment librement. Les uns et les autres venaient le visiter, probablement en amenant d'autres personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, et il prêchait le royaume de Dieu. Il est dit « enseignant tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle ». Situation idéale, voilà, 2 ans de liberté. Après 2 ans de prison, 2 ans d'entière liberté. Pour revenir avec cette histoire de Keith Green, c'est beau. J'étais étonné en regardant des photos de sa femme, Mélodie, aujourd'hui, de la voir avec un grand sourire. Une femme vraiment rayonnante. Et on l'interviewe sur YouTube, vous pouvez regarder ça. Hein, on l'interviewe sur son mari, et voilà, elle en parle librement. Et la vie ne s'est pas arrêtée pour elle, non? Elle a continué à progresser, à avancer, à mûrir dans le Seigneur. Et elle s'est rapprochée de son Seigneur, de son Maître. La volonté de Dieu est douloureuse parfois. Elle comporte des souffrances. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui ne souffre pas. Même le Fils de Dieu a souffert. C'est aussi pour ça que la volonté de Dieu est parfois incompréhensible. Parce qu'il y a des souffrances. À vue humaine, c'est déraisonnable. Mais la volonté de Dieu n'en demeure pas moins la meilleure pour chacun d'entre nous. Dieu sait ce qu'il fait, il fait toujours ce qui est parfait. Et j'aimerais terminer en lisant Actes 21, 13 à 14. Regardez. Actes 21, 13 à 14. Donc, ses amis, les disciples du Seigneur essayent de l'en dissuader. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ?» Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Et on peut, pour terminer, se pencher sur l'attitude de l'apôtre. Non seulement Paul ne veut pas esquiver ce que Dieu désire pour lui, mais en plus, Paul le désire lui-même. Et ça, c'est incroyable. Il dit, mais je suis prêt. Ça veut dire, il n'y allait même pas à contre-cœur. Il n'y allait pas en reculant. Non, il y allait volontairement. Il avançait là où Dieu voulait qu'il soit, même si ça s'annonçait difficile. Et c'est un exemple pour nous qui témoigne de son amour et de sa maturité pour le Seigneur, dans le Seigneur. Et je pose la question, est-ce que ça ne serait pas finalement là un aboutissement dans la maturité? Oui, c'est un aboutissement. Si on regarde l'exemple de Jésus lui-même, on voit que la volonté du Père le conduisait vers des souffrances. Il les connaissait, elles étaient devant lui. Et même, on peut dire, les pires souffrances, hein, la mort sur la croix. Et pourtant, Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'y avance. Et de la même manière que pour Paul, les disciples de Jésus ont essayé de dissuader le Seigneur en disant, mais non, c'est pas possible, tu ne mourras pas. Ils ne voulaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'en apparence, c'était incompréhensible. C'était inutile. Ils avaient besoin de leur maître. Et pourtant, eh bien, on sait tous que c'était la volonté de Dieu et que c'était le meilleur. Qu'il passe par là et qu'il meure pour nos péchés. Paul dit, « Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et on voit ici que la maturité, elle conduit à accepter la condition et la voie que le Seigneur nous trace, même si elle comporte des souffrances, des douleurs, même si elle est incompréhensible. On sait que c'est le meilleur. Alors, eh bien, on obéit, on y va. Finalement, tous les disciples vont se résoudre à dire que la volonté du Seigneur se fasse. Et l'important, c'est seulement que la volonté du Seigneur se fasse dans nos vies. Et Dieu nous invite, finalement, à parvenir jusque-là, puisqu'il nous dit, priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon cœur, dans nos cœurs. Et comme elle est faite au ciel.